Et vous écoutez France Culture. Je voudrais jouer des films où les gens rient comme à Guignol, Louis de Funès. Mais pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre à la Cinémathèque en ce samedi pour y déambuler en compagnie de son commissaire Alain Crugère au long de l'exposition de Funès qui s'y tient jusqu'au 31 mai 2021. Mais déambuler est-il le mot juste? On va plutôt y être charrié par le fleuve Funès où tout en rapide, en chute et en tourbillon, dont le cours passe par pas moins de 140 films, sans négliger quelques monuments historiques du cabaret et du music-hall. Mauvais genre en proie à Louis de Funès, c'est maintenant sur France Culture. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission entièrement funétienne que je ferai en compagnie bien évidemment d'Alain Crugère. Bonsoir Alain Crugère.
Bonsoir François, bonsoir tout le monde d'ailleurs. Dans cette exposition, on l'a préparée avec Thibaut Brutin, mon jeune camarade, et toutes les équipes de la Cinémathèque, et on est très heureux de vous y accueillir.
Dans l'équipage également, Philippe Rouillet, bonsoir.
Bonsoir, très content d'être dans cette très très belle exposition, on va en reparler, mais il y a du travail et il y a de l'idée.
On est content de ne pas se déplacer pour rien. Et puis Christophe Beer, bonsoir Christophe Beer.
Bonsoir François, également ravi d'être dans cet univers funécien, magnifique, oui.
Alors nous rendrons un hommage plus circonstancié le 10 octobre à Michael Lonsdale. On peut dire néanmoins quelques mots, j'imagine, sur les rapports entre Funès et Lonsdale.
Oui, ça tient au film Hibernatus d'Edouard Molinaro et Lonsdale, qui aimait se définir comme un acteur anglo-saxon, c'est-à-dire un acteur avide d'expérimentation, donc capable d'improviser, s'était senti extrêmement à l'aise avec ce partenaire qui tordait les phrases et qui improvisait des onomatopées. Et Lonsdale s'était rendu compte que beaucoup d'acteurs attendaient que de Funès finisse sa réplique, alors que lui, au contraire, essayait de rebondir à certaines onomatopées, à des sortes de dialogues un peu absurdes. Et ça avait beaucoup plu à de Funès, qui avait adoré travailler avec Lonsdale, qui n'avait qu'un rôle assez secondaire dans Hibernatus.
Alain Crugère sur Michael Lonsdale.
Alors, Michael Lonsdale, c'était un acteur, moi, que j'ai d'abord connu comme un acteur de Jean-Pierre Mocky. Et il se trouve que quelques jours avant la mort de Jean-Pierre Mocky, j'étais avec lui et on a appelé Michael Lonsdale. Et Michael Lonsdale lui disait « Tu me fais plus tourner ». Enfin, ils n'ont pas arrêté de tourner ensemble, ils ont fait 7 films ensemble. Et il me racontait que sur le tournage d'Hibernatus, l'obsession de Jeanne de Funès, la femme de Louis de Funès, c'était de savoir pour qui allait voter Michael Lonsdale. Est-ce qu'il était communiste? En tout cas, est-ce qu'il allait voter à droite? Enfin, c'était très important pour elle.
Je crois que Lonsdale lui avait dit qu'il était d'extrême centre.
Vous voulez vraiment l'installer dans mon hôtel? Vous n'avez rien entendu, comment?
Non, je dis bien entendu.
Ah, cet hôtel qu'il a connu en 1900, vous croyez qu'il va le reconnaître?
Simplement remettre votre hôtel parce qu'il est dans l'état où se trouve le social.
J'entends, je ne comprends rien.
Non, je dis que vous allez tout simplement remettre votre hôtel particulier dans l'état où il se trouvait au début de ce siècle.
Enfin, monsieur le professeur, vous n'y pensez pas, j'ai dépensé des fortunes pour le faire moderniser. J'ai donc fêté les transformations, les peintures sont encore fraîches.
Mais si votre parent ne peut pas venir d'emblée à notre époque, il faut que notre époque aille à lui.
J'ai une idée. Si nous lui apprenions à quelle époque nous sommes, subitement, d'un seul coup, là-bas.
Salle Turée.
Retour sur la planète de Funès. Alors, la planète de Funès, c'est vous, le démiurge, Alain Crugère. Alors, comment avez-vous fait pour, je dirais, à la fois vous laisser porter par le personnage de Funès et en même temps, je veux dire, nous livrer quand même quelques clés d'intelligibilité, quelques dates, quelques images, à la fois marier la méthode, la clarification et en même temps la folie?
Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas de traverser un voyage chronologique, mais de montrer tous les mondes de Funès. On commence dès l'ascenseur, on entend tous ces bruits d'animaux parce qu'il était tous les animaux à la fois. Puis après, on arrive dans un monde de bande dessinée, puisque c'était aussi un personnage d'animation. C'était quand même l'un des seuls acteurs au monde qui coupait ses lignes, qui trouvait qu'il avait trop de texte. Et d'ailleurs, au tout début de l'expo, il y a une carte postale que nous a confiée l'actrice Mylène de Mongeau, qui était sa partenaire dans Fantomas, qui voulait de lui pour jouer dans Signé Furax. Alors il dit, je connais très bien ce programme de radio, j'aime beaucoup Signé Furax, mais j'ai pris le verbe en N, j'ai pris le mot en N, et il écrit N avec une H capitale. Ensuite, on a essayé de voyager dans son univers burlesque, c'est-à-dire qu'il avait de faire une espèce de lanterne magique de son panthéon cinéphilique, qui était composé de Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, et bien entendu Laurel et Hardy. Laurel et Hardy qui était, pour moi, il est à la fois Laurel et Hardy.
Est-ce qu'il serait aussi les Marx Brothers? C'est une question auquel on pense, parce qu'il fait du, piano comme Chico, il peut être muet comme Harpo, il y a une sens de la folie et de la destruction.
Oui, moi je crois qu'il est aussi les Marx Brothers, parce que il y a une scène par exemple dans Allez belle bacchante où il danse en string de cuir et entouré des Bluebell Girls. Et si on met en parallèle cette scène-là avec le film Elsa Poppin, on se dit que bon, il y a cet univers mental, mais quand il fait la danse du grand restaurant, là on est forcément cette espèce de folie collective, on est dans la folie collective des Marx Brothers. Donc, et aussi bien au piano, quand il joue dans Un cheveu sur la soupe, il joue effectivement du piano comme on peut le retrouver entre les doigts des Marx Brothers.
Allons, messieurs, vous êtes chargés d'une enquête dans un théâtre où se produisent des femmes lâchées.
Un double écran dans l'entrée de l'exposition à la Crugère montre parfaitement tout ce que vous venez donc d'évoquer verbalement, c'est-à-dire toute une série d'extraits à la fois de films importants de Louis de Funès et de classiques du comique, et même de Nosferatu, qui montrent bien que son univers s'inspire et trouve son origine directement dans les grands classiques américain et dans toute une tradition du film comique et non pas dans une espèce de gesticulation stérile comme le pensent les sots.
Serge Corbert, le cinéaste Serge Corbert, qui a fait L'homme orchestre et Sur un arbre perché avec lui, m'avait dit qu'ils avaient retrouvé dans la cave du château de Clermont des bobines, parce qu'il avait une salle de projection, et ils avaient trouvé des bobines de Murnau. Et c'est vrai que quand on reprend la scène du seul film qui signe en tant que réalisateur, en tant que co-réalisateur avec Jean Giraud qui est l'avare, la dernière scène fait étrangement penser au Nosferatu de Murnau.
Alors c'est une exposition qui n'est pas rivée à la chronologie et qui n'est pas scolairement appuyée sur des dates, mais néanmoins vous avez tenu à marquer les six périodes essentielles de Louis de Funès, avec notamment des débuts tardifs et puis toute une période, je dirais, d'essais on pourrait dire que son style, son écriture corporelle, sa grammaire comique est déjà là, mais rien n'est encore déclaré puisque le personnage n'est pas encore au premier plan.
Alors, c'est vrai qu'il a fait une centaine de films avant de commencer à avoir du succès. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se sert effectivement de toutes ses vies, parce que bon, il a fait plein de métiers en plus. Il a été harpette, il a été fourreur, apprenti fourreur, et il a adoré être étalagiste. Il a été étalagiste, il y a rencontré sa première femme, ils ont eu un fils ensemble, et c'est vrai que on s'attend pas à tous ces métiers. Alors, dans ces métiers, il a été pianiste de jazz pendant la guerre, et c'est vrai que ça, on le retrouve dans la plupart de ses premiers films, mais cet homme qui est né en 14, comme il le dit au Major Arbar dans La Grande Vadrouille, a traversé ce siècle, et il a monté les marches un petit peu comme ces personnages ont monté les marches de la société en démarrant en ouvrant des portes, en ouvrant la porte du paradis. Et il finit par devenir un patron, un homme qui roule en DS. Donc il passe du vélo, de la deux chevaux à la DS. Cette ascension, c'est-à-dire la croissance de sa carrière correspond à la croissance de la France des Trente Glorieuses.
Monsieur le directeur,
oui.
Faut signer les chèques. Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, oh non, ça je ne pourrais pas.
C'est la fin du mois.
Encore? Bah, pas les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois, et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois, et puis après, ça s'arrête.
Alors Christophe Beer, vous avez une passion pour, je dirais, le De Funès d'avant le Star System, celui des années 45, 55, 56, à l'époque où il faisait autour d'entre 10 et 15 films par an. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période, je dirais, des débuts de Funès, où il est partout et nulle part, où il fait aussi bien du théâtre avec Anouilh, du musical avec les Branquignols, Robert Derry, Colette Brosset?
Quand on regarde de près certains films, et ils sont disponibles, beaucoup sont disponibles en DVD, on se rend quand même compte de son importance en tant que second rôle. Et les producteurs l'aimaient bien. Il était tout de même très sollicité. Et assez vite, il a eu ce que je pourrais appeler des seconds rôles de premier plan. Par exemple, avec des cinéastes complètement oubliés comme Pierre Montazel. Et c'était des films d'une très, très grande fantaisie. Quand on se replonge dans ce cinéma français des années 50, on peut découvrir des éclats de burlesque, parce que en fait c'était des films avec beaucoup de partenaires, aussi bien des gens comme Jules Berry, pour lequel De Funès a été le majordome, un majordome éblouissant en glissant sur les parquets et en tombant par terre, se relevant, que des gens de sa génération comme Robert Derry. Donc on citait Allez belle bacchante, qui était une sorte de pic, ça ne date que de 1954. Mais je pense aussi à son personnage de cuistot poète dans La Rose Rouge, qui est un film qui date de 1950, où il est au milieu de toute une troupe éblouissante. C'est La Rose Rouge, c'est le cabaret. Le film a été réalisé par Pagliero. Il est tout à fait, il est extraordinairement drôle dans un personnage vraiment fou, fou allié. Et il y a aussi, ah oui, une date très importante, c'est 1954 aussi. Il donne la réplique à Fernandel dans Le Mouton à cinq pattes. Il a le rôle d'un croque-mort qui essaye de vendre une assurance sur la mort à Fernandel et à terroriser Fernandel. Et la rencontre des deux est très étonnante. Il a déjà un certain nombre de tics qu'il est en train de polir au fil des films. Et il y a un incident sur le plateau. Fernandel lui renvoie son tic. De Funès comprend tout de suite que Fernandel est en train, avec la science du montage qui peut avoir lieu ensuite, de phagocyter son personnage. Il se plaint à Henri Verneuil, qui a beaucoup d'estime pour De Funès. Il dit, si Fernandel est en train de m'imiter en me renvoyant mon tic, mon personnage n'existe plus. En fait, la grande force de Funès à cette époque, comme certains de ses modèles, des gens comme Carrette, comme Noël Roquevert, c'était qu'il avait un besoin urgent de s'imposer en quelques répliques, voire parfois en une seule scène. Et c'est ce qu'on voit vraiment dans tous ces films.
Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de montrer dans l'expo, avec justement des extraits de tous les films que vous avez cités. Parce que c'est vrai que ce personnage qu'il est en train de fabriquer, ces gags qu'il est en train de mettre au point, parce qu'on lui a reproché après de répéter, mais c'est vraiment comme un acteur de la Commedia dell'arte qui perfectionne son personnage, qui le façonne, qui le polie avec toujours plus de finesse, d'acuité. Et c'est vrai que Fernandel, qui a écrasé le box-office des années 50, voit bien que De Funès est en train d'arriver, et c'est vrai qu'il essaye de lui voler son gag.
Ce qui est intéressant à ce moment-là, on le voit aussi chez Guitry. Et il y a une collaboration très forte avec Guitry. Alors, il est maître d'hôtel dans La vie d'un honnête homme. Il est face là à Michel Simon. Et c'est aussi cette idée qu'il a traversé tout le cinéma français. On parlait de Jules Berry, de Fernandel, de Bourville, bien avant le Corneau. Et là, il se retrouve avec Michel Simon. Pour quelqu'un qui n'est pas amateur de mots, c'est une belle rencontre avec Guitry qui va jouer aussi au théâtre.
Alors, ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que bon, Guitry, il arrive à Guitry par sa famille, puisque sa sœur a épousé Gire, qui est un assistant de Guitry. Et ce qui est très très saisissant dans cette histoire, c'est que Guitry le repère tout de suite. Lui commence d'ailleurs à faire le malin tout de suite. Et dans La vie d'un honnête homme, il a comme partenaire Jean Sac, qui va être la femme des gendarmes et souvent sa femme au cinéma.
Et avec un plan très audacieux, hein, pour les amateurs de mauvais genre, un plan de nudité de poitrine très rare en 1952. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle ne se déshabillera plus quand elle sera sa femme.
Et de harcèlement. Parce que le harcèlement n'est pas fait par Louis de Funès, bien sûr, qui était un homme très sage et très prude, mais par Michel Simon, bien sûr.
Alors Alain Kruger, on a évoqué ce débutant tardif, 31 ans, Louis de Funès, qui était pianiste de jazz, pianiste de bar, des marathons pianistiques qui le rendaient totalement fourbu.
Ah oui, oui.
Il en a parlé. Et puis après, qui décide de devenir comédien de théâtre, qui fréquente le cours de René Simon, qui rencontre des gens comme Daniel Gélin. Et puis qui, après, pendant une dizaine d'années, s'échine à trouver une place au cinéma et au théâtre. Et puis après, donc, il y a cette période de 10 ans où il tourne énormément dans des rôles microscopiques, mais extraordinairement incandescents. Et là, on a notamment, sur cet écran, de bons exemples de cette période, avec Courte tête de Norbert Carbonneau, où il joue le rôle d'un escroc mi-curé, mi-militaire.
Un film encensé d'ailleurs par Jean-Luc Godard.
Je l'ai été 3 fois, de Sacha Guitry.
Alors, ce qui est frappant, c'est qu'avec Guitry, on sent bien qu'il y a une complicité, que ce personnage l'amuse, qu'il fait un peu le malin aussi. Et il va se retrouver d'ailleurs aux côtés de Claude Jansac, qui sera sa femme à multiples reprises.
Christophe Beer, là, on a quoi ?
Non, je ris parce que là, on est place du Tertre dans Monsieur Taxi, qui est un film de Hunebel, André Hunebel, qui fera ensuite tous les Fantomas. Et qui adorait de Funès. Il le fait tourner en 49 dans Mission à Tanger, par exemple.
Alors cette période, on peut le dire, va s'achever. Un tournant va avoir lieu en 1956 avec la traversée de Paris de Claude Autant-Lara, où là, de Funès a une scène. Alors, il n'y a même pas la peine d'en parler tellement elle est devenue culte, célèbre, emblématique, tout ce qu'on veut. C'est la scène du 45 rue Poliveau où il joue le rôle de Jambier, le trafiquant du marché noir.
Jambier !
Et de son célèbre cochon. Alors là, vous avez, pour commémorer l'événement, créé un véritable espace rue Poliveau. Donc on est dans la cave, il fait noir. Alors, il y a la très belle affiche avec le cochon en majesté. Il y a les dessins de Max Douy pour le décor du film. Il y a une photo d'Autant Lara qui s'apprête à interviewer ou à diriger le malheureux.
Il est en train de faire répéter son texte au héros du film, voilà. qui est le cochon, bien sûr.
Le cochon est en train de répéter ses grognements pour qu'il soit bien raccord. Alors là, véritablement, de Funès a enfin, peut-être, on peut le dire, enfin, il était déjà repéré, connu, apprécié, mais là, il y a quand même un moment où il peut tout faire.
Alors, il y a eu la rencontre avec Derry qui a marqué vraiment. Il voulait absolument être dans la troupe de Derry, être dans la troupe des Branquignoles. Et on peut dire qu'il va triompher au théâtre et au cinéma dans Les Belles Bacchantes, qui va faire plus de 2 millions d'entrées à une époque où il y a beaucoup moins de cinéma qu'aujourd'hui. Là, il existe réellement. Ce qui se passe avec la traversée de Paris, c'est qu'il va être reconnu par l'établissement. Et c'est vrai que François Truffaut, par exemple, dans Art, va dire qu'il est exceptionnel, c'est un acteur extraordinaire. Ce qui est assez frappant, c'est que si Godard et Truffaut vont l'encenser dans cette période-là, dans les années où il sera célèbre, ils ne le feront jamais tourner.
Oh ! Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus.
C'est sérieux ?
Comment si c'est sérieux ?
Rien du tout, vous m'entendez ? Rien du tout !
Je donne 1000 francs, nom de Dieu, Jambier ! Jambier, 2000 francs !
Rien du tout ! Je lui casse la gueule !
Jambier, je veux 2000 francs, Jambier, 45 rue Poliveau !
Oui, oui, on le sait, plus un franc, plus un sou !
Mais laissez-moi le descendre ! Jambier ! Jambier ! Jambier !
Alors, ce qui me semble passionnant quand on regarde la traversée de Paris, c'est qu'en fait, c'est vraiment là le moment où il y a l'élaboration de son personnage. Parce que, par exemple, dans Les Belles Bacchantes, il a un succès, mais là, on le voit, veulent avec les forts et puis tyrannique avec les faibles. C'est un peu ça, l'idée. Oui. Et il devient ce personnage qu'il va déployer pendant les années à venir. En une scène, on pourrait dire qu'il y a le condensé de tout Louis de Funès futur.
Mais ce que je trouve fascinant, c'est que c'est un personnage qui joue des personnages toujours plus épouvantables, antipathiques, détestables, qui réussit d'ailleurs à syncrétiser tous les défauts du monde. Et pourtant, on n'arrive pas à ne pas l'aimer. C'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que j'ai dit qu'il était Laurel et Hardy, mais il est aussi Guignol et gendarme. D'ailleurs, il sera aussi Guignol et il sera aussi gendarme. Comme dans Nivi du Cogny, il est braconnier et il sera garde-chasse dans Poisson d'Avril aux côtés de Bourvil. Il y a toujours cette espèce d'ambivalence de personnages qu'il réussit à conjuguer dans le même corps.
Je pense que les spectateurs l'ont toujours apprécié parce qu'il leur envoie leurs travers et parfois des défauts épouvantables. Donc il y a certainement une reconnaissance pour le spectateur de rire de choses inavouables.
Et je dirais même, non seulement il se reconnaît, mais il reconnaît surtout le voisin, celui d'à côté, l'homme d'à côté qui a tous ces défauts-là et qu'il peut pointer du doigt de façon amusée.
C'est l'anti-Schroem, vous savez, l'homme que vous aimerez haïr. Là, c'est l'homme haïssable que vous aimez. C'est le contraire, parce que plus il est atroce, plus on le trouve drôle et finalement quand même sympathique. C'est quand même un immense paradoxe.
Un peu du zou, pas pour le temps. Un peu du zou pour le chien. Un peu du zou. Bon, puis un petit coup pour l'air, hein. Bon, ben quand il faut y aller, faut y aller. Un chien. Allez.
De Funès a fait ses débuts quand même au théâtre, au musical, au cabaret. Il avait avec les planches, avec la scène, un rapport presque mystique, au sens où c'est un peu comme hanté, le héros de la mythologie, qui ne retrouvait sa force que quand ses pieds touchaient le sol. Quand les pieds de Funès touchaient la scène et touchaient les planches, il retrouvait une espèce de... Il recommuniait avec, je dirais, l'expérience première. Et c'est ce qui va lui être favorable au début des années 60, avec Oscar et Pouic-Pouic. Puisqu'à autant le cinéma, avec le tournage cinéma, le montage, le mixage, et puis quand même une hiérarchisation extrêmement précise, il ne peut pas forcément faire ce qu'il veut, autant sur scène, alors ça devient un ring où il met en scène, il tord le texte, il tord la mise en scène, il joue avec le décor, il jongle avec tout. Là.
Oscar, ça me paraît absolument fondamental, parce que c'est la pièce dans laquelle il va réellement éclore, où il va réussir à absolument tout bouffer, parce que c'est une pièce qui est créée par Pierre Mondy et Belmondo dans le rôle qui sera au cinéma repris par Claude Rich. Et cette pièce, il la joue avec tellement d'intensité, d'ailleurs il en mourra presque, hein, elle le tuera. C'est vraiment la pièce, enfin le film dans lequel il va réussir à retrouver le souffle du théâtre. Et c'est vrai que lui se définissait comme un acteur de théâtre. Le cinéma, c'était une façon alimentaire de continuer sa vie. Et c'est vrai qu'il recherchait des metteurs en scène, c'est vrai avec Houry en particulier, ça a été vrai avec Serge Corbert, qui riait, ouais, une belle, qui riait quand il le voyait jouer. Et si ça s'est pas très bien passé au cinéma avec Oscar et Molinaro, c'est parce que Molinaro était plus sobre et qu'il n'était pas explosé de rire devant les scènes, les gesticulations de Funès.
Oui, mais alors, il a quand même une idée, Molinaro, parce qu'en fait, de Funès, ça se passe tellement mal qu'il dit, je vais pas faire ma tirade du nez. Le fameux numéro qu'il y a dans Oscar avec le nez, qui l'a rendu célèbre au théâtre, qui les tire, etc. Et du coup, Molinaro a l'idée en studio d'aller chercher des techniciens des autres plateaux pour les installer sur des bancs et faire un véritable décor à De Funès sur la scène. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde le film, on s'aperçoit que dans la mise en scène du film, il y a aussi un public. C'est-à-dire que les quatre autres personnages sont là face à De Funès. Et j'ai l'impression que, y compris dans la diégèse des films, De Funès a toujours besoin d'un public, et peut-être c'est le souvenir du théâtre, pour donner son plus grand jus comique.
Moi, je crois que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas fait de tragédie, parce que quand il a fait des tragédies comme jeune acteur, par exemple, quand il joue dans Thermidor à la fin des années 40 avec comme partenaire Gérard Houry, il fait rire les gens quand il rentre en scène. Donc, ce génie comique est tel qu'il ne peut pas faire... Alors, si, il y a deux films qui sont pour moi deux films assez tragiques, qui sont L'Avare et qui sont La soupe aux choux, qui sont deux films sur la mort, qui sont deux films à la fois sur la terre. C'est vrai que quand il porte sa cassette, c'est comme quand Nosferatu porte le cercueil. On est dans la même logique et dans la même dramaturgie.
Mais Alain, ça va complètement dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont deux films de la fin, sont deux films crépusculaires, et là il ne fait plus rire parce qu'il porte sur lui les stigmates de sa propre mort. Il va mourir en 83, mais en 80 quand il fait l'avare, et en 81 au moment de la soupe aux choux, il est déjà complètement parcheminé, marqué par la maladie, et du coup peut-être que c'est là qu'il y a cet aspect tragique, parce qu'il fait beaucoup moins rire pour cette raison-là.
Oui, dans le catalogue il y a des entretiens avec ses partenaires, et c'est souvent très très poignant, et notamment ses partenaires féminines. Il y a Christine Dejoux pour la soupe aux choux qui explique que, lui donnant la réplique, elle voyait toute cette tragédie dans son œil. Ensuite, quand la caméra était sur lui, ça disparaissait un peu, il avait une retenue, et elle dit cette chose très juste, c'est que c'était de sa faute, il n'a pas osé dire qu'il avait envie d'aller dans cette direction. Il y a autre chose qui m'a frappé dans l'entretien avec Mylène de Mongeau, puisque là nous sommes encore dans la partie traversée de Paris, dans le décor de la traversée de Paris et avec Marcel Aimé. Ça m'a vraiment attristé comme spectateur, c'est que Marcel Aimé avait voulu rencontrer De Funès, il avait un rôle extraordinaire à lui proposer. Quand on pense à l'univers de Marcel Aimé, on se dit ça peut être extraordinaire, effectivement, De Funès. Et il n'a pas osé aller voir cet auteur. Et alors, autant je trouve que c'est un comédien généreux, puisqu'il s'entoure toujours d'une équipe de comédiens vraiment chevronnés, des gens de très grande pointure, je suis toujours assez déçu par le choix de ces cinéastes, d'une façon générale, je ne vais pas, c'est vraiment là je fais une généralité. Pourquoi diable a-t-il passé sa vie à tourner avec Jean Giraud ? Par exemple, Jean-Pierre Mocky voulait tourner avec De Funès, ça ne s'est pas fait, ça aurait été 100 fois mieux que La Zizanie de Claude Zidi. Alors, ça c'est vraiment un drame dans la carrière de De Funès.
Pour Mocky, Mocky avait pensé à lui dans le drôle de paroissien pour jouer le rôle qu'a joué génialement Francis Blanche, du policier. Mais moi ce que me disait Mocky, c'est que ce rôle, il trouvait que De Funès était trop cher. Et que Francis Blanche était beaucoup plus abordable. Enfin, c'est ce que disait son producteur. Et pour La Zizanie, enfin le projet Le Boucan, je crois que Madame de Funès n'avait pas tellement envie, d'ailleurs, de confronter trop Louis de Funès avec ce monstre qui était Jean-Pierre Mocky.
Hey ! Dis donc, non, te cache pas, je t'ai vu. Hey ! Sors, allez ! Allons ! Bien ici, qui est-ce ?
Tu le sais aussi bien que moi, puisqu'il est venu te demander ma main.
Oui, mais je veux entendre prononcer son nom de ta propre bouche. C'est pour m'amuser, pour la musique. Enfin, qui est-ce ?
C'est Oscar.
Qui c'est ça, Oscar ?
Mais voyons, Bertrand, tu perds la mémoire. Oscar, c'est ton chauffeur.
Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin ?
Alors, si vous le voulez bien, messieurs, on va s'extraire de l'épicerie clandestine de De Funès au 45 rue Poliveau pour aller vers l'univers lorsqu'il est un peu celui de la soupe aux choux. Il faut savoir quand même, pour ceux qui vont venir à l'exposition, à la Crugère, qu'on est pris dans une véritable... On est vraiment immergé dans un bain sonore permanent, puisqu'il y a des dizaines d'écrans qui n'arrêtent pas de tressauter autour de nous et qui renvoient des moments, les uns après les autres, de la carrière de Funès, puisqu'on arrive quand même au mi-temps des années 60 jusqu'au début des années 70, à l'époque où ça devient la plus grande, peut-être une des plus grandes stars du cinéma français.
La plus grande star européenne même, parce que De Funès, c'est un acteur mondial. Si on met à part le continent nord-américain, enfin les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Sud, le Canada, le Japon. Alors, c'est une énorme star en Allemagne, c'est une énorme star en Russie, dans tous les pays du bloc soviétique, tout comme c'est une énorme star en Espagne ou en Grèce. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que une des raisons pour lesquelles ces personnages de tyrans domestiques a autant de succès dans les pays de l'Est ou dans les pays en dictature, c'est aussi parce que ça permet de se moquer du régime à peu de frais.
De Funès incarne formidablement les aléas, les heurts et malheurs du pouvoir et de la domination, puisque à partir de cette période-là, on va en reparler un peu plus tard dans l'émission, il n'est plus le petit braconnier, le petit escroc, le domestique ou le barman qu'il a pu être avant, mais il devient chef d'entreprise, grand bourgeois, homme d'argent, confronté aux responsabilités, ministre, confronté aux responsabilités, à la gestion d'une famille, à la gestion d'un capital. Voilà. Donc là aussi, le personnage change. Et donc, effectivement, s'il lui arrive malheur, il sait que c'est partagé par, je dirais, toute la société.
Philippe Houillet. J'avais une question. Par rapport à son succès dans les autres pays, est-ce qu'il était doublé ou est-ce qu'il était dans sa langue ?
Non, il est doublé. Il est doublé par des gens qui imitent pas mal son tempo d'ailleurs. Et c'est assez rigolo d'écouter de Funès en japonais ou de Funès en allemand. Alors, ce qui est d'autant plus amusant, c'est qu'en allemand, il devient même un autre personnage. C'est-à-dire que sur les affiches, il s'appelle Baldwin. Et Baldwin, c'est le prénom de Cruchot dans Les Gendarmes. Donc, on passe d'un film à l'autre. C'est-à-dire que dans l'affiche de Sur un arbre perché, c'est Baldwin. Mais à la fin de sa vie, c'est même Louis. Il devient Louis. On n'a même plus besoin du De Funès. C'est un acteur d'une popularité absolument incroyable. Si on en parle aujourd'hui encore dans tous ces pays-là, il existe au premier plan comme en France.
Christophe Bier, comment peut-on essayer de qualifier le De Funès d'après 68, celui qui est en quête d'un renouveau, d'un ressourcement, et puis qui donnera notamment L'Homme Orchestre, qui est une tentative de refondation, La Folie des Grandeurs ou Rabbi Jacob. Le box-office est toujours là, mais est-ce que la grammaire évolue un peu, l'esthétique change, l'homme a changé?
On sent une envie de renouveau, notamment en s'adressant à Serge Corbert, avec lequel il s'entend à merveille. Mais c'est un renouveau qui a quelques dératés. Moi, j'aime beaucoup Sur un arbre perché, mais on sent que De Funès sur cet arbre, et surtout dans cette voiture décapotable qui est le signe de sa richesse, et il joue un personnage qui envisage de faire de la politique, il est vraiment étriqué. Alors, est-ce qu'il avait été intéressé par ce pari de tenter d'être aussi drôle dans un espace aussi réduit?
Et sans les jambes.
Il
ne peut pas marcher, il est dans cette voiture.
Oui, il y a beaucoup de gros plans du visage. C'est un film très, très bizarre, ça, dans sa carrière.
Moi, c'est un film qui m'intéresse énormément parce qu'il y a des scènes de pur burlesque. Dans le petit téléviseur qui est dans la voiture, là, il est en pied. Et il fait des inaugurations. Et là, on est dans du cinéma muet pur. Et il joue aux côtés même de Serge Corbert. Il joue une scène d'inauguration d'autoroute, puisque c'est un constructeur d'autoroute. C'est un peu le pendant du personnage de Tricatel dans L'Aile ou la Cuisse. C'est une espèce de bouigue gigantesque, d'une espèce de laos de ballonnetteté absolument merveilleuse. Et il joue, en fin de compte, une pièce de Beckett. Sur un arbre perché, c'est une pièce de Beckett. Et le personnage d'Alice Sapritch, qui va retrouver dans La Folie des Grandeurs, qui joue sa femme, il y a des scènes qui sont délirantes. Et sur les médias, c'est un peu le gouffre chimère de Billy Wilder. Hein. C'est une autre façon. Alors, ce qui est amusant, c'est que Serge Corbert racontait que c'était un scénario qui était écrit pour Montand et Annie Girardot. Quand ils viennent de faire L'Homme Orchestre, il se dit « Mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de tourner encore avec toi. » Et il prend ce drame, qui était un drame d'adultère classique, pour en faire une comédie très étrange et qu'il faut absolument découvrir.
Dans la vie, il y a tout simplement ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas.
La vie, c'est l'énergie. La volonté. Le travail. La malchance n'existe pas.
Parmi les tout derniers films de Funès, Philippe Houillet, un dont il est le co-réalisateur, c'est L'Avare, dont j'ai jamais entendu dire beaucoup de bien. Pour vous, au contraire, c'est un moment tout à fait passionnant de sa filmographie.
Oui, parce que le film n'est pas sans défaut, mais il a tellement de qualité et d'originalité qui, moi, m'emballe. On sent que, ça on le sait, c'est écrit dans le catalogue d'ailleurs de l'expo, L'Avare, c'est un projet qu'il a promené depuis les années 50. Il avait très envie de jouer L'Avare. Il a d'ailleurs enregistré des disques, je crois, en 1964, où il y a le monologue d'Harpagon et de la cassette. Donc c'est quelque chose, mais en même temps, il y a cette pudeur à se confronter à vraiment un classique du théâtre et un classique avec beaucoup de mots. Et il va oser, parce que finalement, c'est Fechner, le producteur, qui va l'encourager à co-réaliser le film avec Jean Giraud et à oser un certain nombre de choses, notamment dans les décors. Il y a des aplats de couleurs, il y a un travail sur les costumes et sur les couleurs des costumes qui virent de temps en temps à l'abstraction. Et ce que j'aime dans le film, c'est que c'est un Harpagon évidemment très, très physique, hein, mais sans retrouver l'intériorité d'un Michel Bouquet, évidemment, quand il fait Harpagon, retrouve quand même des accès métaphysiques. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la comparaison avec le Nosferatu de Murnau, quand il tient sa cassette comme l'autre tient son cercueil, il y a quelque chose du rapport à la mort qui vient s'installer là. Et ce film qui a été très décrié à l'époque, je me souviens en 1980, les beaux esprits se détournaient de ça, finalement c'est un film qui par exemple est très utilisé dans les écoles pour s'approcher de Molière. Et peut-être que l'interprétation de Funès n'est pas si loin de l'interprétation de Molière.
Mais ce que dit Patrick Dandré dans le catalogue, hein, qui est un Sorbonnard qui est un grand spécialiste de La Fontaine et de Molière, hein, il dit qu'on a fait exactement les mêmes reproches à Molière que ceux qu'on faisait à De Funès, l'histoire des grimaces, du premier plan. Et il dit, pour moi, Bouquet, c'est l'Harpagon métaphysique et De Funès, c'est Harpagon ultra physique. Et c'est ce jeu-là que je trouve vraiment intéressant, tout comme cette façon d'intégrer les pages mêmes du texte de Molière ou de faire appel à Maurice pour faire les chevaux sont dessinés, ce sont des jolly jumpers. Mais vraiment, je trouve qu'il a mis beaucoup de cœur dans ce film, que le démarrage du film, très fidèle à la pièce, est complètement raté. Mais à partir du moment où il y a la scène de la quête, ça aurait été un très bon démarrage du film, mais il était trop respectueux du texte.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Ah, que ferai-je pour le trouver? Au courrier, ou ne pas courrier? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en vis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré.
On continuait notre déambulation dans l'exposition. Alain Kruger, on est à côté des casques allemands de la Grande Vadrouille. On se retrouve devant la robe des Ménines de Velázquez, qui est dans le...
Un de mes deux Funès préférés.
Voilà. Ah.
Oui, Rabbi Jacob.
Alors, on a fait évoquer les grandes périodes, les tournants importants, les dates essentielles de la carrière de la filmographie de Funès avec vous, Alain Kruger, dans cette exposition dont vous êtes le commissaire, à la Cinémathèque. On va maintenant... J'aimerais qu'on évoque cet élément important qui est, je dirais, le lien de Funès avec l'histoire dont il a été à la fois un des héros, un des témoins, c'est-à-dire les Trente Glorieuses, la période qui va de 45 à 80, 75, c'est-à-dire de la libération, de la reconstruction de la France jusqu'au choc pétrolier, qui est la période de modernisation à marche forcée, 4e puis gaulienne et pompidolienne de la France, l'arrivée de la consommation, l'arrivée de la technologie, l'arrivée du confort. Les Français sortent du 19e siècle pour entrer vraiment dans quelque chose de différent. Et De Funès est là en incarnant un petit peu ce rapport à la modernité, mais un rapport qui n'est jamais ni critique, ni complice, mais qui est un rapport, je dirais, à la fois pathétique et panique. Parce que tous les personnages qu'il incarne sont des personnages, on l'a dit, je le répète, des personnages importants socialement. Ce sont des chefs d'entreprise, c'est un chef d'orchestre, c'est un grand restaurateur, ce sont des industriels, c'est des gens à responsabilité qui manipulent de l'argent, qui gèrent au quotidien des ouvriers, leurs familles et tout. Et donc là, De Funès, c'est véritablement, à la différence, je dirais, peut-être de Bourville, qui n'a jamais incarné ces personnages-là, ou Gabin, qui ne les a incarnés que sur le tard, le Gabin d'après-guerre, le Gabin de Denis de la Patellière, des grandes familles et autres. De Funès est à plein dans cette espèce de modernité dans laquelle il se débat de façon totalement délirante et jouissive pour nous.
Oui, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que quand il est académicien dans L'Aile ou la Cuisse, et en même temps éditeur du Guide du Chemin, il est dans l'époque aussi, et il est même en avance, parce qu'il va défendre une alimentation biologique face à l'agroalimentation, à l'agro-industrie, et c'est vraiment... Il est vraiment un pionnier du bio, un pionnier de l'écologie. Et il disait, s'il y a une chose pour laquelle il faut se battre, lui qui ne voulait pas trop se mouiller en politique, s'il y a une chose qu'il faut se battre, on peut descendre dans la rue, c'est pour défendre la nature. Donc c'est vraiment, c'était un homme de la terre aussi, c'était à un moment donné un pêcheur, c'était qui a arrêté par conviction écologique aussi d'être pêcheur. C'était un amateur de bonne chair, qui a été juste privé de la bonne chair, d'ailleurs il suffit de voir son corps. C'est un amateur de bonne chair qui, à un moment donné, par des contraintes médicales, devient beaucoup plus mince et plus grave.
Mais il y a quand même, d'une manière différente que celle de Tati, d'ailleurs c'est ce que montre bien Jean-Baptiste Torré dans un article du catalogue, il y a quand même un rapport à la modernité sociale, à la modernité technologique, à la société de consommation, qui est quand même assez frénétique et qui est assez carnavalesque.
Oui, il joue avec ça énormément. Je dirais, il y a un côté temps moderne qu'on essaye d'illustrer d'ailleurs. Il y a un hommage à Chaplin dans L'Aile ou la Cuisse qui est absolument évident. Tout comme dans Oscar, on est dans des décors de Vakevitch qui sont absolument magnifiques, mais où il y a tous les signes là aussi de la modernité. C'est-à-dire que sa maison, ça aurait pu être le palais de l'Élysée à la période de Pompidou. Hein. Ce sont les sièges de Paulin, ce sont les téléviseurs design. Enfin, et cette maison qui est la Villa Stein à Vaucresson est aussi bon. Une maison moderniste.
Et du coup, je pense que si on aime tant De Funès aujourd'hui, c'est aussi qu'on y retrouve une image de la France de cette période-là. C'est-à-dire que, et on le voit bien dans l'exposition, c'est la France des déesses, hein, la fameuse déesse qu'on a dans Fantômas, c'est la France de la deux chevaux. Et dans l'exposition, on a la deux chevaux du Corneau qui s'écroule, et c'est la vraie, avec les fils, etc. Et du coup, se replonger dans ces films-là, c'est se replonger dans cette époque, c'est aussi ce cinéma qui est une sorte de boîte à images et du temps perdu, avec du coup l'image de De Funès qui est extraordinairement rassurante. C'est une France qui n'existe plus et qu'on a plaisir à revisiter.
Oui, c'est une France avec des inquiétudes très fortes qui pointent quand même. Dans Rabbi Jacob, il y a les attentats, il y a les terroristes et un esprit, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, qui est presque aussi bête et méchant que Harakiri, avec des personnages insensés qui ont toute la place. De Funès ne cherche jamais à tirer la couverture vers lui, bien que son personnage burlesque est un personnage qui veut tout le temps occuper le centre, mais Claude Pied-Plu est éblouissant de drôlerie en une sorte d'inspecteur Clouseau dans Rabbi Jacob. Et c'est un film qui joue beaucoup sur des peurs récentes, qui combat le racisme, et ça c'est assez... original et nouveau dans la carrière de Funès.
C'est-à-dire qu'il va le faire donc, à partir de Rabbi Jacob. On sent qu'il y a une espèce de déclic. On peut même dire à partir de La Folie des Grandeurs. Parce que La Folie des Grandeurs, c'est un film politique. Hein. C'est vrai que la phrase préférée du président de la République, c'est « Je suis ministre, je ne sais rien faire ». Mais sinon, c'est vrai que on a dit Rabbi Jacob, mais L'Aile ou la Cuisse, c'est un film politique. La Zizanie, là aussi, c'est encore un film sur l'écologie. Et sur le bruit, sur la pollution, et là il essaye de mener ses combats. Et ce que je trouve assez touchant, alors le film préféré de Michel Houellebecq, c'est Le Gendarme et le Gendarmette, qui est son ultime film, qui pour moi n'est pas un film de tout premier plan, mais il faut peut-être le regarder avec l'œil de Michel Houellebecq pour mieux le comprendre. Mais là aussi, l'informatique. C'est un film sur le numérique avant l'ère du numérique, avec l'ordinateur qui prédit la vie des gens et qui annonce d'ailleurs la date de naissance de Funès, 31 juillet. Hein, on ne précise pas l'année. L'année, il la précise dans La Grande Vadrouille en disant « Je suis né en 14 ». Voilà. Donc il y a toujours cette espèce de jeu, ce jeu d'improvisation et ce jeu de vie d'un gourmand, parce que c'est aussi un homme qui non seulement a son jardin biologique, qui a non seulement assez rose, mais aussi qui est un mangeur, qui est un gourmand, qui est un amateur de bonne chair, ce qui est un bon vivant, comme dans ce film que j'adore, de ce sketch de Lautner, dont les dialogues sont écrits par Michel Audiard.
Il y a un film assez étonnant qui est donc dans ce sketch qui s'appelle Un grand seigneur ou Les bons vivants, le titre a... Et où finalement, il va ouvrir une maison close sans s'en apercevoir. Et c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le film où il est naïf. Et il y a assez peu de films où il est naïf. Et à chaque fois, il fait son numéro, que ce soit devant les jeunes femmes... les jeunes prostituées qu'il a logées comme serveuses, comme ses camarades de l'Athletic Club,
comme hôtesse.
Voilà. Et à chaque fois, en fait, son discours est complètement détourné. La drôlerie, c'est que lui est au premier degré et que les autres, évidemment, ont notre regard. Et c'est peut-être un exemple assez rare où le regard qu'on porte sur De Funès n'est pas celui qui correspond à ce qu'il nous envoie. Et le film joue merveilleusement de ce décalage. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est quand même un des rares films qui joue avec des dialogues de Michel Audiard.
Et où l'as-tu trouvé? C'est dans la rue, c'est bien ça. Non, je rentrais hier soir tranquillement chez moi. Je rentrais, elle me dit, monsieur, c'est vrai, c'est... Alors, il y avait une autre qui a dit, il s'appelle un chapeau, il m'a dit, qu'est-ce qu'elle veut dire? Bon, bah, allez, ça va. Parlons de sport. As-tu élaboré les statuts du club? Et personne pour servir.
Vous m'avez, moi?
T'es gentil. Même tout à fait charmante, oui. Charmante. Oui, mais vous pouvez pas savoir ce que c'est que de préparer et de servir toute seule un repas pour 8 personnes. Pour 8.
J'ai l'impression que... je sais pas. Article 4. L'association procédera à des opérations limitées au nord par le chemin vicinal de Rupertuis, bordé au sud par la voie ferrée, bordé à l'est par la route d'intérêt local et bordé à l'ouest par la propriété de chez Bouillac, n'a pas été acheté avec une intention spéculative. Notre association est totalement détruite.
Il a fait 13 films avec Odia, mais on ne retient aucun dialogue. Dans le premier film avec Audiard, qui s'appelle Mission à Tanger, il joue le rôle d'un général et Raymond Rouleau lui dit « Allez-y, Franco, mon général », bon, qui est une réplique qui est importante quand on sait qu'il dirigeait l'Espagne à l'époque. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans ce dernier film, qui est la 13e collaboration avec Audiard, il reste ami avec Audiard, il se retrouve pour faire des dîners à l'hôtel de la Trémouille pendant des années jusqu'à sa mort. Mais ils vont plus travailler ensemble parce que il dit j'ai pris le texte en haine et il est pas à l'aise ni avec le verbe d'Audiard ni avec des sujets qu'il peut trouver peut-être un peu scabreux ou un peu grossier dans sa bouche.
Jolie valise que vous avez là, monsieur.
Qu'est-ce que vous voulez à ma valise, hein? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, ma valise? Vous croyez que je vais pas remarquer votre manège avec ma valise? Eh bien, touchez-y à ma valise et vous verrez, je vous plierai en quatre, moi. Voyou, bras croisé, cul de plomb. Allez me chercher un taxi, vite!
Papa!
Vite! Hein? Vite! Un taxi, vite, un taxi, la banque ferme à 4 heures!
Alors on va migrer vers un nouvel espace de cette exposition de Funès à la Cinémathèque avec vous. Alain Krugère, là on est devant un masque qui a dû servir à la confection Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Alors,
c'est le l'empreinte du visage de Funès. On dirait quasiment un masque mortuaire. Un masque mortuaire souriant. C'est Louis de Funès. Il y a un gag que je trouve assez remarquable dans la Zizanie. C'est qu'à un moment donné, il y a un bal masqué. Et le masque que choisit de Funès, c'est un masque de Funès. Et donc, sur le visage de Funès, il colle ce masque de Funès. Et ce qui donne des scènes assez séduisantes par la suite.
Alors, on va achever ce parcours avec vous à la Crugère. En évoquant justement la question de Funès comme phénomène biologique, comme phénomène physique et organique, vous évoquiez là le rapport difficile avec Audiard. Bon, c'est vrai qu'Audiard, qui était un habitué, un amoureux des grands classiques français, c'était l'homme de la phrase ciselée, du jeu de mots qui retombait sur ses jambes, sur ses pattes comme un bon chat. C'était un homme d'écriture, de phrases et tout. Bon, de Funès, la vitesse à laquelle il va, la vitesse à laquelle va son jeu, il ne peut pas s'embarrasser, si j'ose dire, de langage.
Et le goût de l'impro.
Voilà.
D'une part, détester Audiard.
Il ne peut pas fonctionner à la virgule près, et il ne peut pas non plus, il se réfugie pas, mais il ne lui est possible que l'onomatopée, le bruit, une espèce de bruit organique. Et là, on voit justement autour de nous toutes les scènes où il est nu, puisque c'était même un des rares comiques à véritablement exhiber son corps. Dans Le Corneau, il y a la célèbre scène de la douche où il est avec un culturiste absolument lui parfaitement épanoui et où il met en valeur tout le côté défait, un peu déchu de son physique en tirant sur ses bourrelets, en agaçant ses pauvres tétons velus. Enfin, c'est vraiment le corps de Funès qui s'humilie volontairement. Et puis il y a la scène connue à la fois du bain turc dans La Grande Vadrouille où là aussi il est à côté d'un moustachu, il a l'air beaucoup plus frêle. Sans compter les nombreux numéros de bassines dans la Folie des Grandeurs avec Montand et de massages et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas peur.
Flattez-moi.
On le dit pudique, c'est vrai qu'il était pudique. On le dit un peu refermé sur lui-même. Je suis espagnol et catholique, je suis donc coincé. Il disait ça au début de sa carrière. Mais néanmoins, c'est quelqu'un dont le corps est affiché et mis en scène et dramatisé presque dans les films.
Parce qu'il y a le corps, il y a le de Funès personnel, intime et discret, et puis il y a le de Funès acteur qui va transcender tout ça et qui va transformer ce corps chétif d'un homme d'un mètre 63 qui se dégarnit à hauteur de son succès. C'est-à-dire que plus la croissance de la France et celle de ses entrées progresse, plus la décroissance de ses cheveux est importante. Mais ce que je trouve frappant, c'est qu'il assume totalement ses fragilités physiques pour en faire des forces. C'est un champion de judo. D'ailleurs, dans Les Bons Vivants, il est champion... Il fait du judo avec Jean Richard, Hubert Deschamps, Philippe Castelli, enfin toute une belle compagnie. Et ce corps, quand on le voit danser un peu en béjart dans l'homme orchestre, sur une musique qu'on entend en arrière-plan, qui est la musique de François Droubet, magnifique partition de François Droubet, on se rend compte que c'est un corps éblouissant, gracieux. Je veux dire, c'est un homme qui passe sa vie à danser. Dans ses films, il danse au moins 20 fois et il danse de façon géniale. Là, Olivier Gonnor de la Cinémathèque a fait un montage de ses scènes de danse qui sont absolument magnifiques.
Mais je pense que cette danse l'aide aussi comme acteur comique. Il y a une sorte de chorégraphie, même une chorégraphie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sur un arbre perché où il n'a pas ses jambes. Parce que quand on regarde de Funès, même s'il est juste debout, etc., il y a un jeu de jambes qui flageolent, qui rebondissent, etc. C'est un corps dansant.
Ya, ya.
Grimace et vous êtes mort.
Grimace, mais je l'ai.
Comment vous appelez-vous?
Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau.
Monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste?
Moi, par exemple, je suis juif.
Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
Oui, il faisait 1m63, et ce que j'ai découvert en lisant le catalogue, c'est qu'il aimait mettre ses partenaires parfois sur des cales, ce que beaucoup d'acteurs comiques, en fait, n'aiment pas du tout faire. Certains usaient énormément de talonnettes pour être presque à la même hauteur que leur partenaire féminine, et c'est, je crois, dans Le Grand Restaurant, avec ce chef cuisinier Raoul Delfos, qui est déjà un acteur imposant, il le surélève encore plus pour être encore plus petit. Et il y a ensuite un plan très bref où on le voit sortir de la salle de cuisine. Il se regarde dans un miroir. On sent toute la détestation qu'il a pour la lâcheté dont il fait preuve. Et ça, c'est très, très drôle comme
devant
séquence.
Devant son fils qui joue son neveu, oui. Olivier de Funès joue le rôle du petit-neveu du chef. Louis de Funès joue devant son propre fils.
Il malmenait beaucoup son image. Ça c'est aussi quelque chose de très fort dans son burlesque.
Il y a beaucoup d'autodérision.
Alors, l'autodérision, tout le monde en profite, y compris les institutions françaises. On va passer maintenant à la salle du gendarme, qui a beaucoup fait, et d'aucuns pensent beaucoup nuit aussi au personnage de Funès, parce que là, effectivement, il s'est enfermé un peu dans une figure difficilement maniable. Il y a même un mannequin, un Kruger, là, c'est le...
Bah, c'est la statue de cire que nous a prêté le musée Grévin. Donc là, le gendarme, moi, ce que je trouve intéressant avec le gendarme, c'est vrai que c'est... Il y a toujours eu une espèce de condescendance que je trouve non justifiée à l'égard de Jean Giraud, parce que s'il y a un film qui va révéler un peu avant tout le monde de Funès vedette, c'est Pouic Pouic. Pouic Pouic est un film de Jean Giraud, d'après la pièce de Jean Giraud et Wilfried. C'est leur premier ensemble. Et alors, ce qui est amusant, c'est que de Funès avait joué le valet, le rôle que va jouer après Christian Marin. Et ce que je trouve formidable dans Pouic Pouic, c'est que là, il a toutes les expressions. Au début de l'exposition, on montre une espèce d'animation interactive où on voit toutes les expressions de Funès. Et dans Pouic Pouic, il a toutes ces expressions-là, une fantaisie, une diversité d'expressions. En une seconde, il y a 10 expressions différentes.
Moi, il me semble que si... Je ne suis pas forcément un spécialiste de la série des gendarmes, mais il me semble qu'il peut faire évoluer quand même son comique et son personnage au fur et à mesure des films. C'est-à-dire qu'il y a l'exportation du comique à New York, il y a le côté on va se ranger quand il part en retraite, il se marie, il y a la confrontation avec le fantastique et les extraterrestres.
C'est pour ça que je dis qu'il est à la fois guignol et gendarme dans le même corps. Il joue avec ça. Bon, là, on entend... le thème des gendarmes auquel il était très attaché, composé par Raymond Lefebvre, et cette marche des gendarmes qui est très inspirée par celle du pont de la rivière Kouai. La citation est tout à fait assumée. Ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, il va jouer jusqu'à sa mort le gendarme, puisque
c'est son dernier film,
que Jean Giraud va mourir sur le tournage, et que c'est un film assez, là aussi assez tragique, un grand film féministe d'ailleurs. Mais il y a ce jeu avec ce corps d'élite. On revient au corps, hein, ce corps d'élite de la gendarmerie et cette relation au corps qui suit le corps des naturistes aussi, hein, dans le premier gendarme. Mais moi, j'ai une tendresse particulière par le gendarme en balade où on leur dit « Bon, maintenant, on vous met à la retraite » et où ils reviennent en chantant « Pom, 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 pom ». Voilà, on est là. Et je voulais qu'on parte sur une note de gaieté, sur cette musique qui est sans prétention, avec un maximum de fantaisie.
Merci Alain Kruger pour cette déambulation frénétique tout au long de cette exposition de Funès en folie. Vous êtes arrivé à maintenir la folie dans les limites d'une exposition. Bravo en tout cas. Et on peut dire à nos auditeurs de venir et d'y venir nombreux et en famille, n'est-ce pas ?
Métro Bercy.
Métro Bercy, c'est jusqu'au 31 mai 2021. Venez nombreux. Merci donc à Philippe Rouillet, aux gendarmes de mauvais genre, et à Christophe Beer d'avoir été présent. Toute l'équipe de l'émission, Laurent Polleret, Yvan Charby, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Philippe Rouillet, Christophe Beer et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette déambulation funéscienne. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission bande dessinée avec Benoît Presteil et Martès Bassori. Et d'ici là, bonne nuit à tous.
Alors, je propose de chanter maintenant. Oui.